Juger les crimes de guerre, anatomie d'un combat moral.
À l'heure où Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou, deux chefs d'État, sont inculpés par la CPI, quelle est l'histoire de cet idéal de justice internationale né à Nuremberg il y a 80 ans ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le juriste et écrivain Philippe Sands.
Épisode 1, 1945, Nuremberg, le droit contre la barbarie.
Les hommes qui font la guerre peuvent être jugés pour avoir violé les lois de la guerre. Robert Jackson, discours d'ouverture du procès de Nuremberg, le 21 novembre 1945. Bonjour Philippe Sands.
Ravi d'être avec vous.
Vous êtes écrivain, avocat, professeur de droit et notamment de justice internationale à University College of London à Londres. Vous êtes franco-britannique, vous parlez parfaitement bien français. Et on va ensemble converser sur ce qu'on a appelé l'anatomie d'un combat moral qu'est la justice internationale. Comment juger les criminels de guerre, sujet ô combien actuel, mais on a toujours besoin, et c'est le principe même de ce podcast et de cette émission, de profondeur de champ historique pour savoir d'où on vient, pour savoir où on en est et peut-être où on peut aller. Un petit mot avant de commencer absolument notre conversation. J'ai sous-titré ça « Anatomie d'un combat moral ». C'est aussi un combat politique, un combat judiciaire. Moral, ça vous va ?
Moral, ça me va. Culturel, idéologique aussi. On pourrait dire, en fait, comme Aung San Suu Kyi l'a dit en 2019, quand j'ai plaidé contre elle à la Cour internationale de justice pour la Gambie contre la Birmanie, dans l'affaire des Rohingyas, elle n'a pas dit beaucoup de choses que j'ai aimées, mais une chose qu'elle a dit au juge, c'est que le droit international, c'est le seul langage que nous avons en commun. Et ça m'a laissé une marque.
Commençons sur Nuremberg, 1945. Nuremberg, c'est évidemment le point de départ, le jalon, le socle sur lequel va se construire toute notre histoire. Mais qu'est-ce qu'il y a avant ?
Le 21 novembre 1945, c'est un moment révolutionnaire. C'est la première fois dans l'histoire des êtres humains qu'un tribunal international est créé pour juger les anciens leaders d'un pays pour des crimes internationaux. Il n'y avait pas vraiment de précédent. En 1919, ici à Paris, a été signé le traité de Versailles. Et il y a un article dans ce traité qui a prévu l'inculpation du Kaiser Wilhelm de l'Allemagne pour crimes d'agression, les guerres illégales, warmongering, comme il dit dans la version anglaise. Mais finalement, rien s'est passé. 26 ans plus tard, nous avons, en juin 1945, l'accord entre quatre pays, y compris la France, les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, de créer un tribunal international militaire.
Et pour faire peut-être ce que Joseph de Maistre avait appelé en 1815, alors qu'il plaidait avec d'autres pour le jugement de Napoléon, il avait écrit « Ce serait un grand monument pour l'histoire ».
Nuremberg était ce monument. La première fois que ces crimes internationaux, crimes de guerre, crimes d'agression, crimes contre l'humanité et génocide sont mentionnés dans un système de droit international.
Alors le mot génocide, on l'évoquera dans l'épisode suivant, parce que c'est qu'en 1948 qu'il entre en effet de plein pied dans notre droit international. Mais restons sur Nuremberg. Est-ce que c'est la violence des crimes, l'horreur des crimes qui justifie Nuremberg, leur dimension internationale, peut-être aussi le combat civilisationnel de la démocratie et du droit? Comment est-ce qu'on explique que ça fonctionne à ce moment-là?
Il faut aller en arrière quelques mois à Yalta pour la rencontre de M. Roosevelt, M. Churchill et M. Staline. Churchill ne voulait pas de procès. Il voulait simplement les mettre contre un mur et les tirer dessus, les tuer. Mais c'est Roosevelt et bizarrement Staline qui ont dit non, pour des raisons différentes. On veut un procès pour démontrer au monde entier que nous sommes différents des nazis. Nous avons ce truc qu'on appelle le droit, l'état de droit. Et il y aura un procès. Churchill finalement a été convaincu. Ils ont donc passé à peu près 3 mois à se poser la question, et c'était complexe, quelles seront les bases de l'inculpation.
Oui.
À ce moment-là, mi-45, il y avait seulement un crime international, crime de guerre. Et ça touchait trop peu des crimes qui ont eu lieu pendant cette période. Et donc, ils ont inventé littéralement trois nouveaux crimes. Crime contre l'humanité, crime d'agression, crime contre la paix, ils l'ont appelé à ce moment-là, et ce mot génocide qui a joué un petit rôle, un rôle mineur. Mais c'est un moment d'invention, et là il y a un problème, parce qu'ils ont appliqué ces nouveaux règles rétroactivement. J'ai raconté dans mon livre « Retour à Lemberg », dans mon imagination, je me suis posé la question. Un des 21 défendeurs qui étaient devant le tribunal, Hans Frank, l'avocat personnel de Adolf Hitler, entre 28 et 33, un grand juriste, un homme très cultivé, un homme de grande culture. Je suis très ami avec son fils, Niklas, qui m'a raconté plein d'histoires sur son père. J'imagine souvent le moment où ce juriste reçoit le statement of charges, les crimes, et il lit crime contre l'humanité, crime d'agression, génocide. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est inventé. Ça n'existait pas en 39. Alors en fait, il y a un problème de rétroactivité. C'est le moment de création. Il faut toujours avoir un moment de création.
Ça a été un enjeu lors du procès? Les avocats des accusés ont mis ça sur le tapis en expliquant on ne peut pas être jugé pour un crime qui n'existait pas quand on l'a commis.
Absolument. C'était absolument un enjeu. Ils ont argumenté ça. Et la réponse, c'était quoi? Non, ils ont dit les juristes de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Union soviétique. C'est pas inventé. Ce texte clarifie ce qui existait en principe déjà, mais pas exprimé. C'est faux, c'est pas correct. En fait, Franck avait raison. C'était inventé et appliqué contre lui rétroactivement.
C'est-à-dire que vous iriez jusqu'à dire que l'avocat que vous êtes considère aujourd'hui que le procès de Nuremberg était nul et non avenu, en tout cas que les accusés, les 24 accusés auraient dû être libérés pour, je ne sais pas si ça s'appelle vice de forme, pour ce que vous venez de nous expliquer là.
Je ne vais pas aussi loin que ça. Regardez, dans l'histoire, il y a toujours, vous l'avez eu en France avec la Révolution et aux États-Unis, il y a des moments de création. Et à ce moment, on invente les obligations, on invente les crimes, on invente les principes. Et la question se pose, comment est-ce qu'on va appliquer ces choses? Alors, c'est clair qu'il y a un problème, mais bon, dans la vie, c'est comme ça. Et dans les 80 ans qui ont suivi, toutes les routes mènent à Nuremberg. Tout mène à ce moment-là.
D'où l'intérêt de commencer notre conversation par Nuremberg, ce jalon qu'on évoque ensemble pour ce premier épisode. Vous avez employé rapidement l'expression « crime contre l'humanité ». Ça veut dire quoi, un crime contre l'humanité, de manière très précise, quand on est un juriste du droit international?
Alors, imaginez la situation, vous êtes autour d'une table comme celle-là, vous êtes en train de négocier les crimes qui vont appliquer les juges à Nuremberg. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont crime de guerre. Le problème avec crime de guerre, c'est que ça s'applique seulement pendant les temps de guerre. Alors, ils avaient besoin de trouver quelque chose qui s'appliquait pendant l'occupation, s'il n'y avait pas un état de guerre. Alors, ils ont inventé cette idée qui a été prise par un juriste, le professeur à Cambridge, Herr Schlauterpack, je parle de lui dans Retour à Lemberg. Son fils, en fait, était mon prof à l'Université de Cambridge. On savait rien de tout ça. On était dans une salle à l'Université de Cambridge. Il y avait une plaque sur le mur, ce grand monsieur, Schlauterpack, Herr. On n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait, ce monsieur. Mais c'est lui qui a inventé ce terme crime contre l'humanité. Et l'idée, c'était d'avoir un autre crime à côté de crime de guerre qui pouvait s'appliquer à tout moment et qui poursuivait en principe, la protection de tout être humain, que tout être humain a le droit d'être protégé et s'applique dans le contexte du droit pénal. Ça, c'est ce qui s'est passé en 45. Trois ans plus tard, en 48, convention contre le génocide, il n'y a jamais eu convention contre les crimes contre l'humanité, sauf que les négociations ouvrent cette année, en 2025.
Alors, on va y revenir pour voir ce que ça peut vouloir dire, notamment dans notre dernier épisode, celui sur notre temps le plus contemporain. Mais restons encore en 1945, il y a 80 ans donc, on fête l'anniversaire, dans quelques temps, de ce procès. Ce procès pour l'histoire, est-ce que d'un point de vue du droit, c'est un procès qui a été un grand procès de justice, ou c'est un procès où il y avait tant de passion morale et d'histoire que ça a été écrasé Qu'en dit le juriste aujourd'hui quand il se retourne sur ce procès pour l'histoire, ce procès dans l'histoire ?
Ah, c'est remarquable, c'était un grand procès. Il y avait des juges, des conseils, des interprètes, il y avait 21 inculpés, il y avait des centaines de journalistes qui ont assisté tous les jours, qui racontaient des histoires remarquables de ce qui s'y passait dans la cour numéro 600, dans le palais de justice à Nuremberg. Il y a eu depuis plein de films. Mon film préféré s'appelle Judgment at Nuremberg, avec Spencer Tracy et Marlene Dietrich. Et ça reprend l'atmosphère de ce procès. Il y avait des moments de drame remarquables. Vous avez parlé avant de Robert Jackson,
ancien de la Cour suprême, qui a dirigé le procès de Nuremberg.
Il y avait un moment très fameux, c'était au printemps 1946, où Robert Jackson tente de faire ce qu'on appelle en anglais un cross-examination, de interroger Hermann Göring. C'est un désastre. C'est complètement un désastre. Pourquoi ? Parce que, bon, Robert Jackson, c'est un grand juriste, c'est un juge à la Cour suprême des États-Unis,
oui.
Mais jamais une fois dans sa vie, il a fait un cross-examination d'un témoin. C'est pas son expertise. C'est une faillite totale. Grande écrivaine américaine, Janet Flanner, écrit dans le New Yorker un article vraiment remarquable où elle raconte comment c'était un désastre. Et en fait, ce qui s'est passé après, les questions ont passé au procureur britannique David Maxwell Fyfe, et en 20 minutes, il a détruit Göring. Mais c'était quasiment désastreux.
Pourquoi c'était désastreux ?
Parce que Göring a joué avec Jackson. Il y a Jackson qui pose une question, silence de Göring, Göring réfléchit, et Göring répond avec une question. Et Jackson ne sait pas quoi faire. Non, mais c'est vraiment... On n'a jamais vu ça parce qu'il y a seulement une toute petite partie qui est sur vidéo, mais on peut l'écouter. Il y a le transcrit, il y a l'audio, tout a été enregistré.
Et on peut lire l'article de Janet Flanner.
Et on peut lire l'article de Janet Flanner. C'est un des articles les plus remarquables. Et Flanner vivait à Paris à cette époque. Elle descendait à Nuremberg pour passer quelques jours là-bas. Elle revenait à Paris. Et c'est mon article préféré sur Nuremberg.
Mettez
ça sur votre site internet.
Absolument. Il y a eu un duplicat de ce procès au Japon.
Tokyo.
À Tokyo.
Le grand procès de Tokyo.
On en dit un mot.
Ça a commencé un an plus tard.
Ouais.
Et là, il y avait une très grande différence entre les deux procès. En fait, avec les décisions à Nuremberg, pas tout le monde a été condamné à Nuremberg. Mmh. Mais tous les juges ont été quasiment en accord sur la situation. Sur les 21, 3 ont été acquittés. 10, je pense, ont eu la peine de mort. Et les autres, les 8, ont passé 10 ans, oui. 20 ans, 25 ans en prison. Le plus important, c'était Albert Speer et Hess, à Spandau. Mais à Tokyo, un des juges, les juges indiens, a dit non, je suis contre tout ça, il y a un problème de rétroactivité, etc. etc.
On y revient.
Et ce juge indien est devenu très reconnu à cause de ça, à cause de son expression d'indépendance.
La justice, c'est pas que de la morale, hein, c'est aussi du droit, et c'est aussi beaucoup du droit. Vous avez évoqué rapidement, et c'est dans notre actualité contemporaine, la notion de génocide. Elle sera au cœur de notre prochain épisode. Juger les crimes de guerre, anatomie d'un combat moral, un podcast original de France Inter.